Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes, on va poursuivre les réflexions entamées la semaine dernière autour des responsabilités journalistiques face à l'urgence climatique. Aussi, je vous propose un entretien enregistré il y a quelques jours à Tours, aux Assises internationales du journalisme. Un rendez-vous annuel entièrement consacré à l'information. Jean-François Julliard est le directeur général de Greenpeace France. Cette ONG agit sur les principes de la non-violence pour défendre l'environnement. Ses salariés et militants organisent régulièrement des actions très médiatisé contre le nucléaire, la déforestation ou pour dénoncer l'inaction des grands de ce monde en matière climatique. Bonjour Jean-François Julliard.
Bonjour.
Avant de démarrer cet entretien, je me dois de préciser que mon épouse est l'une de vos collaboratrices, mais je ne me voyais pas ne pas vous interviewer ici aux Assises internationales du journalisme de Tours. Le thème cette année, c'est urgence climatique et responsabilité journalistique, et votre parcours réunit ces deux dimensions. Vous êtes titulaire d'un diplôme en technique du journalisme, obtenu à l'Institut français de presse, l'IFP. À vos 25 ans, vous rejoignez Reporters sans frontières en tant qu'objecteur de conscience, c'était en 1998. En 2004, vous deveniez le directeur du bureau Afrique de RSF pour finalement prendre le secrétariat général de l'organisation en 2008. Enfin, en 2012, vous avez rejoint Greenpeace France en tant que directeur général, poste que vous occupez toujours. Les ONG, comme la vôtre, Greenpeace France, sont depuis longtemps maintenant leurs propres médias. Elles produisent leurs images et les diffusent en ligne. Finalement, avez-vous encore besoin des médias ?
Alors oui, on a besoin des médias. Fort heureusement, on a besoin des médias parce que on a besoin que les journalistes fassent leur métier de manière indépendante. On a besoin des journalistes pour aller enquêter sur des sujets sur lesquels nous-mêmes Greenpeace ne pourrions pas le faire, et puis on n'est pas forcément légitime pour le faire. Donc il y a besoin des médias. Il y a même, je dirais, de plus en plus besoin des médias pour éclairer le débat sur des sujets complexes et compliqués, comme le sont les questions liées au réchauffement climatique, par exemple. C'est un sujet extrêmement délicat, difficile parfois à comprendre, à percevoir. Et donc il y a besoin effectivement de la presse pour nous aider à mieux comprendre ces enjeux-là.
Et pourtant, vous produisez vos images et vous pouvez même produire votre propre récit. Vous avez les communautés en ligne pour le pousser. Mais donc l'intérêt pour vous, c'est aussi peut-être d'essayer de travailler main dans la main avec les médias sur certaines opérations ?
Alors, c'est pas forcément main dans la main, mais il nous arrive de travailler en confiance avec des médias, de leur confier des informations qu'on a en notre possession, de les informer de ce qu'on prévoit de faire en termes d'actions, d'activités diverses et variées, donc pour préparer un peu les choses. Mais en revanche, ce n'est pas parce qu'on a nos propres canaux de communication qu'on n'a plus besoin de ceux plus traditionnels utilisés par les médias. Je pense qu'on ne touche pas forcément les mêmes audiences, qu'on a besoin d'élargir les audiences auxquelles on parle aussi. Je pense qu'on a besoin d'utiliser plusieurs voix pour sensibiliser l'opinion publique à ces questions environnementales et puis pour encore une fois, pour créer un vrai débat de société sur ces sujets qui en manquent encore un peu.
Des bureaux de Greenpeace, dont le vôtre en France, embauchent des journalistes d'investigation pour produire vos propres enquêtes. Expliquez-nous pourquoi.
En fait, parce qu'on se retrouve souvent à recevoir des informations de nature assez sensible et confidentielle sur un certain nombre de sujets, de pollution environnementale. Ça peut être sur des activités industrielles qui ont pollué des régions entières, sur des mensonges tenus et écrits dans des comptes rendus de réunions auxquels on n'aurait pas forcément accès. Donc on a besoin, nous, d'avoir des gens aussi en interne qui peuvent décrypter tout ça à la manière d'un journaliste ou d'une journaliste indépendante. Donc on a besoin de faire ça. Après, ce qui se passe, c'est que ces informations-là, soit nous allons nous-mêmes les rendre publiques à travers nos canaux de communication, si on estime que c'est plus facile comme ça ou que c'est plus pertinent comme ça, et sinon, on va effectivement, généralement, proposer ce matériau brut à un média qui ensuite va en faire ce qu'il souhaite, parce qu'après, c'est la liberté et l'indépendance des médias de s'emparer de ça, et donc généralement, les médias vont récupérer ce matériau, ces informations, ces documents, et ensuite vont mener leur propre enquête sur ces sujets-là, et finalement, publier leurs propres enquêtes sur ce thème-là.
Le sixième baromètre des Assises internationales du journalisme a été publié il y a quelques jours. On y apprend que plus d'un Français sur deux estime que les journalistes et les médias n'accordent pas assez de place aux questions posées par le changement climatique et l'environnement. Si l'on en croit ce chiffre, les médias donc manquent à leur mission. Est-ce aussi votre constat ?
Alors oui, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que la crise climatique s'accroît, elle est de plus en plus présente, elle va de plus en plus vite. On a le sentiment que c'est une préoccupation grandissante dans la tête des Françaises et des Français, et pas seulement dans notre pays, mais dans beaucoup de pays. Et on a parfois le sentiment que l'espace accordé dans les médias à ces questions-là ne suit pas ce mouvement, ou pas suffisamment rapidement. On parle bien plus des questions climatiques aujourd'hui qu'on en parlait il y a 10 ou 15 ans, mais on a le sentiment que le rythme avec lequel ça prend est encore trop lent. Et je prends un seul exemple qui m'a paru particulièrement éloquent. Alors certes, c'était en plein été, avec tout ce qu'on peut imaginer de ce contexte estival, notamment en France, mais début août, le GIEC, donc ce groupe indépendant d'experts sur l'évolution du climat, produit un rapport, un nouveau rapport, absolument essentiel pour bien comprendre à la fois la crise climatique et surtout l'accélération de cette crise climatique. Et parallèlement, il y a le transfert de Léo Messi au PSG. Et c'est vrai qu'on a été assez effaré de voir que finalement ce rapport du GIEC, qui est quand même plus essentiel que le transfert de Messi à nos vies, et j'aime beaucoup le foot, donc c'est pas du tout un propos anti-foot ce que je dis, mais c'est juste que en termes de voilà d'importance pour nos vies et notre avenir, il n'y a pas photo entre les deux sujets. Et pour autant, la couverture médiatique a été bien plus importante pour le transfert de Léo Messi. C'est comme ça, voilà, c'est ce fonctionnement médiatique qui fait que c'est difficile de faire passer des sujets qui, encore une fois, sont complexes. C'est vrai que je comprends que des rédactions se disent, ben, c'est plus facile à couvrir le transfert de Messi qu'un rapport du GIEC, qui demande beaucoup plus de temps et tout ça. Mais ce qui m'inquiète aussi, moi, un peu plus que ça, au-delà de l'anecdote, c'est que je vois et je rencontre très souvent de jeunes journalistes qui ont envie de travailler sur les sujets environnementaux et qui ont du mal à trouver de l'espace dans les médias traditionnels, en tout cas, pour couvrir ces sujets environnementaux. Et d'ailleurs, on voit une floraison aujourd'hui de jeunes médias en ligne, très souvent, ou de newsletters même, ou de sites internet, ou de pure players, comme on les appelle, qui traitent de ces questions-là, parce que ont du mal à trouver de la place dans les médias plus traditionnels pour s'intéresser de manière plus importante aux questions environnementales.
Ce brouillon de rapport du GIEC dont vous parliez a été sorti par l'AFP. C'était un scoop de l'AFP sorti au milieu de l'été. J'invite les auditeurs de l'Atelier des médias à écouter notre émission de la semaine dernière où nous recevions la rédactrice en chef centrale de l'AFP qui nous expliquait le pourquoi du comment l'AFP avait choisi de sortir cette information. On le disait, de plus en plus du climat dans les médias, mais avez-vous l'impression que l'on parle suffisamment de l'urgence du climat dans les médias ?
Non, et c'est bien le problème. C'est vrai que souvent, la question climatique est abordée à l'occasion de la publication d'un rapport, ou souvent, l'angle avec lequel les médias traitent la question climatique, c'est souvent quand on a affaire à des phénomènes météorologiques extrêmes. C'est quand on voit ces incendies catastrophiques qu'on a pu voir dans plusieurs régions cet été, notamment au Canada, par exemple, ou sur le continent nord-américain, ou plus proche de nous, en Turquie, ou en Grèce, ou même dans le Var cet été. Et puis, ou quand il y a les inondations qu'on a vu aussi dans le nord de l'Europe, en Allemagne, en Belgique, dans des pays voisins de la France. Donc c'est souvent cet angle-là qui est utilisé. Mais souvent, c'est compliqué d'avoir le temps suffisant dans les médias pour expliquer la chose. C'est quelque chose de complexe, la question climatique, et c'est quelque chose qui a trait à tous les pans de notre société. C'est-à-dire qu'il y a des liens à faire entre la question climatique et la question économique, entre la question climatique et les questions de démocratie. Toutes les manières avec lesquelles fonctionnent nos sociétés, pas seulement en France, nos sociétés ont un impact sur le climat. Et ça nécessite du temps pour l'expliquer, ça nécessite de la pédagogie, ça nécessite d'avoir des avis étayés d'experts, de scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là. Et ça, c'est vrai qu'il y a peu ça dans les médias traditionnels.
Autre enseignement du baromètre des Assises du journalisme, c'est que 59% des Français sondés estiment que plutôt qu'un traitement anxiogène, catastrophiste et moralisant du climat, ils préféreraient avoir des informations constructives qui proposent des solutions pour lutter contre le changement climatique. C'est aussi votre souhait. On sait que Greenpeace est beaucoup plus à essayer de dénoncer ce qui ne va pas. Faut-il essayer aussi de mettre davantage de solutions et de choses positives sur la table ?
Oui, tout à fait, absolument. Et c'est vrai qu'on a du mal, nous, quand on propose des solutions, à justement faire en sorte que les médias en parlent, parce que c'est plus compliqué de parler des solutions que de dénoncer les problèmes. C'est vrai que quand Greenpeace perturbe l'Assemblée Générale de Total ou essaie de bloquer l'Assemblée Générale de Total en menant une action de désobéissance civile, quelque chose de très visuel, de très fort, c'est largement couvert par les médias. Quand on produit un rapport qui consiste à expliquer comment on transforme des secteurs industriels ou comment est-ce qu'on peut, à travers la réinvention du modèle agricole, faire en sorte que l'agriculture écologique apporte des solutions, bah c'est difficile de trouver autant de place. Mais bon, c'est à nous de poursuivre ça. Moi, je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire que Greenpeace est connu effectivement pour la dénonciation des problèmes. Et on va continuer à le faire parce que c'est important de rappeler qu'il y a des problèmes environnementaux et surtout qu'il y a des responsabilités derrière ces problèmes, parce qu'ils ne tombent pas du ciel comme ça par une fatalité divine. Il y a des responsabilités qui sont celles des dirigeants politiques, qui sont celles des dirigeants d'entreprises, qui sont celles de la manière avec laquelle nos sociétés fonctionnent. Donc il y a des responsabilités. Il faut continuer de le dire. Il faut continuer d'être lucide sur l'état dans lequel se trouve notre planète, qui est absolument catastrophique. Et il ne faut pas avoir peur non plus de ce côté effectivement anxiogène, mais je crois qu'il faut faire face à ça et rappeler que les solutions sont connues, qu'elles demandent à être mises en œuvre, qu'il faut de la volonté politique pour le faire, mais qu'il faut préparer tout le monde à de forts bouleversements, parce que les solutions qui sont nécessaires pour faire face au dérèglement climatique, ce sont de vrais bouleversements de nos sociétés et de nos modes de vie. Ça veut dire repenser la manière avec laquelle notre économie fonctionne, donc ça veut dire repenser la manière avec laquelle on produit nos biens, donc c'est un impact sur des filières industrielles entières, et c'est la manière avec laquelle on consomme nos biens, donc c'est aussi repenser tout à fait et globalement la manière avec laquelle on se déplace, la manière avec laquelle on se chauffe, la manière avec laquelle on travaille, la manière avec laquelle on achète nos biens, que ce soit nos vêtements, nos appareils électroniques, électroménagers ou autres, la manière avec laquelle on voyage, on se déplace, la manière avec laquelle on prépare et on mène nos vacances, par exemple. Donc ce sont de vrais bouleversements de nos modes de vie et il faut aussi qu'on se prépare à ça.
Essayez de penser aussi sobriété numérique, c'est un de vos sujets de réflexion, j'imagine.
Oui, c'est un de nos sujets de réflexion, mais qui est complexe, effectivement, surtout à l'heure du déploiement contre la volonté de beaucoup et sans débat sociétal, le déploiement de la 5G en France, qui effectivement est une aberration d'un point de vue de l'augmentation de la consommation énergétique que ça va engendrer. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on essaie de... comment dire ça, de donner de la place et d'accorder de la place à de vrais débats qui n'ont pas lieu. Ce sont des sujets complexes. Effectivement, tout ce qui est de l'ordre de la sobriété est complexe à faire passer parce que ça n'apparaît pas comme un sujet intéressant pour un certain nombre de médias. Or, il faudrait qu'on parle de ça, de comment est-ce qu'on transforme nos sociétés pour les rendre plus sobres en consommation énergétique, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus trop de choix.
Revenons sur les responsabilités, l'exemplarité même. En janvier 2020, le quotidien britannique The Guardian a annoncé qu'il renonçait aux publicités des entreprises pétrolières et gazières, et ce, afin d'agir contre la crise climatique. C'était le premier média d'envergure internationale à faire ça. Je ne crois pas qu'il ait été beaucoup imité.
Non, il y a eu des tentatives ou des approches qui ont été menées par notamment Radio France, qui a annoncé qu'elle voulait réduire la part des publicités pour un certain nombre de secteurs considérés comme polluants et à l'inverse favoriser les publicités pour des secteurs qui font plutôt du bien à l'environnement. Ça va dans la bonne direction, mais c'est pas suffisamment rapide et c'est pas suffisamment impactant. C'est vrai que nous, on a essayé de convaincre des médias de faire comme le Guardian en Angleterre et de renoncer donc aux publicités qui pour les énergies fossiles. On milite même pour une ce qu'on a appelé une loi E20 pour le climat, c'est-à-dire une sorte de réglementation de la publicité qui se base sur ce qui a été fait il y a presque 30 ans maintenant, ou plus de 30 ans à l'époque pour le tabac et l'alcool, c'est-à-dire qu'à l'époque, une loi a interdit purement et simplement la publicité pour le tabac et a réglementé fortement la publicité pour l'alcool, ce qui fait qu'on ne voit pas de publicité aujourd'hui pour le tabac ou l'alcool, ou en tout cas très peu pour l'alcool. Et on estime aujourd'hui qu'on devrait considérer l'industrie des énergies fossiles et toutes les industries qui reposent sur les énergies fossiles, donc ça veut dire la publicité pour le transport aérien, la publicité pour les voitures par exemple, qu'on devrait considérer ces publicités-là et ces secteurs-là comme aussi toxiques pour nos sociétés que le sont le tabac et l'alcool. Et du coup, réglementer la pub pour ces secteurs-là et faire en sorte que ce soit plus compliqué, voire impossible pour ces secteurs-là de faire la pub comme ils le font largement aujourd'hui dans tous les médias.
Le Guardian qui encore avait choisi d'employer l'expression « urgence climatique » à la place de « changement climatique », donc de revoir de façon audacieuse ses pratiques éditoriales. Au cours de ces assises internationales du journalisme, se tenait un atelier intitulé « Des médias zéro carbone, est-ce possible ?» Il était en deux temps, d'une part la responsabilité des journalistes, d'autre part la responsabilité des entreprises de presse. Une ONG comme la vôtre, Greenpeace France, réussit-elle à pencher vers le zéro carbone ?
Oui, mais c'est compliqué, même pour une organisation aussi volontaire que nous sur le sujet, parce que zéro carbone, c'est extrêmement difficile, voire impossible, sans changer totalement les structures collectives qui sous-tendent nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a beau se doter de véhicules électriques, on a beau prendre le train autant que possible et limiter autant que possible le fait d'utiliser l'avion, on utilise aussi des ordinateurs, des téléphones, des connexions Internet, donc c'est jamais complètement zéro carbone. En revanche, je pense qu'on peut tous faire un effort, on peut tous aujourd'hui aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait chez Greenpeace, nous, sur, par exemple, les déplacements. Effectivement, aujourd'hui, on se pose systématiquement la question de la nécessité de se déplacer ou pas pour une réunion, pour aller rencontrer d'autres équipes de Greenpeace à droite ou à gauche. Donc, je pense que tout le monde peut se poser cette question-là, que ce soit les organisations environnementales ou les médias ou toutes les entreprises devraient se poser ces questions-là.
RFI. Vous écoutez l'Atelier des médias. Nous discutons du rôle des médias dans le traitement des enjeux climatiques. Alors que la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP26, se tient à Glasgow, j'ai demandé à Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, s'il avait noté une hausse de la qualité des questions qui lui sont posées sur ce sujet par les journalistes.
Oui, parce qu'effectivement, le sujet devient de plus en plus connu.
La COP21 ?
Depuis la COP21, peut-être. Oui, peut-être depuis la COP21. C'est vrai qu'il y a eu un vrai intérêt pour les médias, parce que c'était celle de Paris, parce que c'est aussi celle qui a donné à l'accord de Paris et tout ça. Mais je crois qu'il y a aussi un renouvellement générationnel au sein des médias. Et encore une fois, moi, je vois beaucoup de jeunes journalistes fraîchement sortis des écoles de journalisme qui ont envie de travailler sur ces sujets-là, plutôt que sur les sujets plus traditionnels que ce qu'ont pu être la presse économique ou même le grand reportage ou l'international. Il y a une vraie envie de travailler sur les questions environnementales avec des journalistes qui sont effectivement mieux formés. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que les écoles de journalisme préparent mieux aussi peut-être les journalistes à ces sujets-là que c'était le cas à l'époque où moi j'ai fait une école de journalisme. Les questions environnementales, c'était à peu près inexistant.
Donc, à mon époque aussi.
Voilà, donc c'est très récent. Donc c'est vrai que du coup, les journalistes effectivement comprennent mieux les enjeux et du coup, effectivement, on pose des questions intéressantes et ça permet d'aller plus loin dans les explications et dans ces débats-là.
Avec votre passif de journaliste et votre parcours de militant, j'imagine que vous réfléchissez parfois à deux fois avant d'accepter une invitation média. Vous arrive-t-il de privilégier un média plutôt qu'un autre en vous disant « dans celui-ci, mon intervention aura plus d'impact » ?
Alors, c'est pas forcément privilégier un média plutôt qu'un autre, mais en revanche, on y réfléchit selon la nature des invitations, selon les émissions. On sait que dans certaines émissions, on a plus de temps pour expliquer les choses, on a plus de place, on a plus de possibilités de s'exprimer aussi. Ce qu'on évite quand on évite, mais bon, généralement, on refuse rarement des invitations médias. Moi, ce que j'évite, c'est le côté chaîne télé d'infos en continu, qui va m'inviter sur un plateau simplement pour, contrer ou contredire tout ce qu'on peut dire ou nous faire passer pour des extrémistes divers et variés. Donc ça peut arriver sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que c'est pas le plus intéressant parce qu'on sait que de toute façon, personne ne va écouter ce qu'on va dire ou quoi que ce soit. Ensuite, on fait attention, effectivement, plutôt au format des émissions qu'à la nature des médias eux-mêmes.
Mais si l'on vous invitait en face d'un climato-sceptique, iriez-vous ou pas ?
Tout dépend. Aujourd'hui, les climato-sceptiques ont plutôt disparu de la scène médiatique française et c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, souvent, quand on nous invite, c'est pour discuter des... non pas du constat qu'on fait sur le changement climatique, mais de la nature des solutions qu'on veut mettre en œuvre. Et aujourd'hui, par exemple, il y a un débat montant aujourd'hui, enfin en tout cas qui revient, parce qu'il n'est pas nouveau, mais qui revient sur la nature du mix électrique. En France, on a un mix électrique qui repose avant tout sur l'énergie nucléaire. Greenpeace est une organisation anti-nucléaire. Donc c'est vrai qu'on nous invite souvent en débat face à des pro-nucléaires ou des partisans du nucléaire. Mais ça, à la limite, c'est intéressant parce que c'est un débat complexe. C'est pas simple d'appréhender toutes les dimensions du nucléaire et ça nous permet, nous, de venir pour réexpliquer en quoi, pour nous, le nucléaire est un problème et surtout n'est pas une solution à la crise climatique. Donc les débats aujourd'hui sont plutôt là-dessus. Les débats sont aussi parfois sur, je dirais, la portée des mesures qu'on veut mettre en œuvre et la capacité des États à les mettre en œuvre réellement. Donc on va se retrouver aussi souvent en débat face à des responsables politiques qui vont nous dire qu'ils en font déjà assez ou que ce qu'ils font va déjà très loin. Et nous, on est dans notre rôle de dire que non, ça ne va pas assez loin parce que si on regarde là aussi les indicateurs et les chiffres, les émissions de gaz à effet de serre en France ne baissent pas suffisamment rapidement.
De l'information au militantisme, il n'y a eu qu'un pas chez vous. Avez-vous tout de même parfois l'impression d'enfiler une casquette de journaliste, par exemple pour informer sur le climat ?
Non, pas vraiment, parce que je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas journaliste aujourd'hui. Je ne suis plus journaliste. Et puis, en fait, moi, j'ai endossé rapidement une casquette de militant, parce que même quand j'étais chez Reporters sans frontières, c'était déjà du militantisme. Certes, on baignait dans cet univers des médias et on travaillait sur les questions liées à l'indépendance des médias, à la liberté d'expression. Mais Reporters sans frontières, c'est pas un média non plus au sens classique du terme. Je sais pas s'il y a une définition classique. On discutait beaucoup de ça à l'époque sur la définition d'un média ou du journalisme. Mais en tout cas, c'était déjà une activité que que je trouvais militante. On ne s'arrêtait pas à l'époque à ce qu'on pouvait écrire ou produire en termes de contenu éditorial. C'est-à-dire que la différence avec un journaliste, c'est que quand un journaliste il a produit un contenu éditorial, il passe en général à un autre contenu éditorial. Quand on était chez Reporters sans frontières, aujourd'hui à Greenpeace, on utilise du contenu éditorial pour essayer de transformer quelque chose. C'est-à-dire qu'on va, quand on écrit et on produit beaucoup de contenus éditoriaux chez Greenpeace, on produit beaucoup de rapports. Ces rapports, on ne se contente pas de les diffuser dans les médias. On va les utiliser pour aller convaincre des responsables politiques de changer une politique publique, pour aller convaincre la direction d'une entreprise de changer ses pratiques et la manière avec laquelle elle produit les biens qu'elle produit. Donc c'est là qu'il y a toute une activité qu'on peut qualifier de militante. Moi, j'aime bien ce mot, contrairement à beaucoup de personnes qui le refusent ou qui le fuient. Et je trouve que c'est ça qui permet justement d'aboutir, ou en tout cas de tenter d'aboutir à des transformations réelles.
Et pourtant, dans votre démarche, vous avez une démarche d'auteur et une démarche éditoriale, à la fois lorsque vous écrivez des livres ou que vous faites des BD comme vous le faites maintenant.
Oui, mais ce n'est pas une activité journalistique pour moi. C'est une activité, effectivement, d'auteur, d'essayiste. Bon, là, j'ai tenté la BD, donc c'est encore quelque chose de différent parce que c'est un scénario totalement fictif qui se base sur des scénarios plausibles, eux, de catastrophes nucléaires en France. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de scénarios d'accidents nucléaires possibles qui sont étudiés, y compris par EDF, y compris par l'autorité de sûreté du nucléaire, y compris par le gouvernement français, pour mettre en place des mesures de prévention face à ces risques possibles. Et en fait, j'ai utilisé l'un de ces scénarios pour raconter ce qui se passerait s'il y avait une catastrophe nucléaire majeure, donc un accident majeur, c'est le titre de la BD, en France.
Merci Jean-François Julliard.
Merci à vous.
C'était Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Un entretien enregistré il y a quelques jours à Tours, aux Assises internationales du journalisme. Vous pouvez l'écouter en version longue, en podcast. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui fait entendre la voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, on part au Bénin, où la fermeture des écoles, décidée pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19, a provoqué une hausse alarmante des grossesses précoces non désirées.
Les impacts de la Covid-19 ne se mesurent pas seulement au nombre de décès. Au Bénin, la pandémie de coronavirus hypothèque l'avenir de très nombreuses jeunes filles qui se retrouvent involontairement enceintes à cause de la fermeture des écoles. Elles sont parfois très jeunes, entre 10 et 14 ans, et pour elles, tout espoir de retourner à l'école disparaît. Devenir mère à cet âge est une catastrophe dans la vie d'une fille qui perd ainsi son autonomie. À cause des mesures de sécurité, les jeunes filles restent chez elles sans rien et s'engagent dans des relations destinées à leur permettre de survivre. À l'école, elles recevaient des repas gratuits et des serviettes hygiéniques gratuites. La fermeture des écoles, décidée par le gouvernement, a donc appauvri encore plus les parents. Donc, certains ont par ailleurs perdu leur emploi à cause de la Covid-19. Pour survivre pendant ce repos forcé, les jeunes filles se tournent vers des hommes qui leur font de menus cadeaux, qui leur donnent de l'argent de poche, de l'argent pour de la nourriture. Elles acceptent les avances de ces hommes qui les abandonnent ensuite enceintes et plus pauvres qu'auparavant. Les jeunes filles sont alors doublement victimes de leur grossesse précoce non désirée. Elles sont victimes de ceux qui ont abusé d'elles et de la stigmatisation de la société. De nombreux soignants et responsables d'associations affirment que la pandémie a aggravé les difficultés pour les filles à accéder à la contraception et à l'avortement. Déplacements limités, hôpitaux surchargés et fournitures perturbées de médicaments ont contribué à un boom de grossesses non désirées. Pour mettre fin à ce phénomène qui existait déjà avant la crise sanitaire, il faudrait arriver à briser le tabou sur la sexualité. Le problème, c'est que la sexualité est vraiment tabou au sein des familles africaines. Les parents n'en parlent pas à leurs enfants. Les filles n'ont pas d'instruction et n'ont pas d'informations sur la contraception. La méconnaissance autour de la sexualité pousse les adolescents à se lancer sur des terrains inconnus qui se transforment en pièges pour les filles qui deviennent mères sans l'avoir désiré. Il faudrait aussi que l'État investisse beaucoup plus dans le planning familial et la santé reproductive des femmes. Dans plusieurs pays africains, dont le Bénin, la planification familiale n'est pas une priorité, ce qui est scandaleux quand on connaît les réalités sur le terrain. Face à la résurgence de la pandémie avec des variants encore plus menaçants, il est urgent que les décideurs anticipent des mesures préventives. Donner plus de moyens à la planification familiale et interpeller les parents pour plus de dialogue avec leurs enfants serait une bonne stratégie pour réussir le combat contre les grossesses précoces non désirées.
C'était Shamsdine Baghiri, journaliste et blogueur béninois. Retrouvez-le sur son blog « L'info dans les règles de l'art » sur mondoblog.org.
mondoblog.org.
C'est la fin de cette émission. Merci à Laurie Plisson qui l'a réalisée et à Camille Deloche qui s'est chargée de Mondoblog Audio. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, je vous rappelle que cette émission est disponible à l'écoute en podcast avant même sa diffusion à la radio. Pour en profiter pleinement, n'oubliez pas de vous abonner sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Vous pouvez m'écrire à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.